Bonsoir, à ce jour, plus de 1800 personnes ont été victimes des mines et autres engins explosifs posés ou abandonnés à travers le pays par les ex-belligérants à l'époque des rébellions. 800 personnes et plus ont trouvé la mort à la suite de l'explosion de ces mines, tandis qu'on compte environ 1000 blessés. Et 3 ans après la signature de l'accord de paix à Sand City en Afrique du Sud, ces engins meurtriers continuent à être en danger permanent pour la population congolaise. Si au Katanga, province la plus minée de la RDC, certaines ONG s'active pour détecter et déterminer ces engins explosifs. En Équateur, province où l'on compte le plus de victimes de ces mines, l'opération de déminage n'a pas encore débuté. Où en est-on avec le déminage en RDC? Que font les ex-belligérants pour faciliter ces opérations? Les opinions de nos auditeurs à ces sujets sont déjà nombreuses. Denis Mukengi de la Conader Maniema trouve que tant qu'ils n'ont pas d'assurance à l'élection, il n'y aura pas de déminage à cause des agendas cachés. Et le peuple ne fait que payer. Paul Dembandaka en Équateur demande aux ex-belligérants d'indiquer au peuple les parties minées pour lui éviter les accidents et faciliter le déminage. Delicacy au Katanga Mpoyo veut savoir pourquoi ces ex-belligérants traînaient encore à faire le déminage alors qu'ils avaient déjà signé un accord de paix. Les invités ce soir pour répondre aux préoccupations de tous nos auditeurs sont Yves Mobando Yogo, gouverneur de la province de l'Équateur, qui est en ligne et à qui nous disons bonsoir.
Bonsoir.
Saïdi Apame, chef du programme national de l'action humanitaire contre les mines auprès de l'ONG internationale Dan Church Aid. Également, il est en ligne en direct de Lubumbashi. Bonsoir également, Monsieur Saïdi. Nous allons avoir M. Saïdi tout de suite en ligne. Et Jean Bosco Lalo, président de la société civile de l'Ituri, qui va intervenir dans la troisième partie de cette émission. Et dans ce studio, nous sommes avec le colonel Jacques Ebenga, qui est expert militaire et ancien conseiller principal au ministère de la Défense et de l'Intérieur, à qui nous disons bonsoir.
Bonsoir. Oui.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Encore une fois, bonsoir à tous les auditeurs de cette émission. D'emblée, disons à nos auditeurs que nous n'avons trouvé aucun interlocuteur auprès des ex-belligérants qui sont accusés d'avoir posé ou abandonné des mines et autres engins explosifs dans plusieurs territoires de la République, que ce soit au MLC, au PPRD et au RCD. Personne n'a accepté de répondre à notre invitation. Au ministère de la Défense, les personnes habilitées à répondre à ces questions n'ont pas reçu l'autorisation de leur hiérarchie. Cela ne va pas nous empêcher de parler de cette problématique, car en 10 ans des différents conflits armés, des mines posées à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, y compris la capitale, ont fait plusieurs centaines de tués, handicapés ou de blessés. Les lieux publics ou à forte fréquentation sont les endroits où ces engins de la mort ont été posés. À cause de la présence de ces engins de la mort, des populations entières ne peuvent plus se livrer aux activités qui leur permettent de vivre ou de survenir à leurs besoins. Le point tout de suite avec notre confrère Paul Kaboba.
Selon la branche des Nations Unies chargée des problèmes liés aux mines et aux munitions non explosées, au 18 mai 2006, les mines antipersonnelles et autres ont fait 1830 victimes de tout âge et de tout sexe. Près de 779 sites à travers toute la République démocratique du Congo sont suspectés de contenir des mines. Ces zones minées sont inégalement réparties. La province du Katanga, par exemple, à 252 sites minés, Kinshasa n'en compte que 3. Avec 230 victimes, la province du Sud Kivu a le nombre le plus élevé de personnes tuées ou rendues infirmes par ces engins de la mort. La majorité des victimes sont comprises dans la tranche d'âge de 16 à 35 ans. Les enfants âgés de 0 à 15 ans sont également à compter parmi les victimes des mines antipersonnelles. Il faut souligner que pendant la période des hostilités, ces mines ont été posées par les différents belligérants congolais ou étrangers. Ces mines ont été posées dans des marchés, des aéroports, des routes et des sentiers. D'autres mines ont été posées à proximité de ces zones. Selon Dan Church Aid, une ONG spécialisée dans la destruction des engins explosifs, les mines et autres engins de la mort empêchent le déroulement normal des activités vitales pour les populations telles que la pêche, l'agriculture, la collecte du bois ou la chasse.
Merci à notre confrère Paul Kaboba. Et tout de suite, M. Saïdi Apame, vous êtes chef du programme national de l'action humanitaire contre les mines auprès de l'ONG internationale Dantut Aid. Avant qu'on étudie les cas de certaines provinces, peut-on d'emblée considérer que cette situation est alarmante?
Oui, madame, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, il y avait des doutes avant que notre pays n'était pas si miné et qu'il n'y avait pas si danger explosif. Mais après 2 ans de travail avec notre ONG au Nord Katanga, nous venons de remarquer que la question des mines, la problématique des mines, doit être vraiment une question qui doit être résolue, sinon ça doit être une préoccupation de la part de notre gouvernement. Parce que on venait de découvrir plusieurs zones qui sont minées et avec comme conséquence sur la population, bien sûr, qui ne veut pas, qui ne peut pas rentrer dans le village où ils vivaient avant. Et d'autres ne peuvent pas accéder à leurs champs parce que ceux-ci sont minés. Donc c'est une préoccupation et ça doit préoccuper tous les Congolais et même tous les pays qui nous aident.
Oui, monsieur le gouverneur de l'Équateur, d'emblée, quelle est votre réaction en ce qui concerne cette situation générale des mines en RDC?
Merci d'abord pour l'invitation et merci également pour la question. C'est un problème, comme l'a dit mon prédécesseur, très préoccupant pour toute la République et en particulier la province de l'Équateur qui a connu la guerre, où il y a eu des mines passées par là. Mais au niveau de l'Équateur, nous sommes un peu soulagés parce qu'il y a déjà un début de solution. Déjà au niveau de Bolomba, dans le sud d'Équateur, il y a l'ONG MAG qui a déminé ce coin.
Monsieur le gouverneur, nous allons au cours de cette émission revenir sur les cas particuliers de l'Équateur. Alors nous sommes ici également dans ces studios avec le colonel Jacques Ebenga. Comment également analysez-vous cette situation?
Voilà, le programme de déminage fait partie des programmes post-conflit les plus urgents. Il fait partie également du programme d'intégration de l'armée. On fait un programme de brassage d'hommes, mais il n'y a pas un programme volontariste de réunification du matériel de guerre dans les mines, qui sont ainsi abandonnées là où elles étaient posées. Donc c'est un problème qui doit être une préoccupation dans le processus de la formation de nouvelle armée également.
Alors prenons quelques exemples concrets qui illustrent bien cette situation et allons en Équateur où une délégation de l'ONG MAG spécialisée dans le déminage s'est rendue à Bolomba, territoire situé à 300 km au nord-est de Mbandaka. Les gouverneurs de l'Équateur nous en parlaient déjà. Alors, la mission de cette ONG consistait à identifier les endroits où des mines et des engins explosifs ont été abandonnés par les belligérants pendant la guerre. Bolomba était la ligne de front entre le ex-FAC gouvernement et ex-ALC, Armée des Libérations du Congo, ancienne branche armée du mouvement rebelle de Jean-Pierre Bemba. Le point donc avec notre confrère en Mbandaka, Henri Lobondo.
Selon le rapport établi par l'ONG MAG qui s'occupe de déminage, des grenades, des obus et des roquettes avaient été disséminés à travers la cité de Bolomba et ses environs. Une quantité importante d'engins explosifs a aussi été découverte à Boyenge, à 30 km de Bolomba. D'autres engins explosifs ont été découverts au début de cette année au nord de l'Équateur, sur l'axe Badolité-Businga. L'ONG Humanitas Congo signale également un nombre important d'armements abandonnés à Dongo. Pour la population locale, ces engins de la mort ont été posés pendant la guerre de 2001 par les ex-forces armées congolaises et les éléments de l'armée de libération du Congo, ancienne branche armée du MLC. Selon le rapport de UNMAS, branche des Nations Unies qui s'occupe des problèmes liés aux mines et aux munitions non explosées, sur les 1830 victimes de ces engins identifiés depuis le début de la guerre en République démocratique du Congo, 479 dont 299 blessés et 178 tués se retrouvent dans la province de l'Équateur. À ce jour, l'ONG MAG identifie les sites où les mines ont été posées. Les travaux de déminage proprement dit pourront débuter dans les jours à venir. Il faut noter qu'aucun parti n'a jusque-là exprimé la volonté de détruire ces engins qui constituent en fait un danger permanent pour la population.
Monsieur le gouverneur, cette situation de l'Équateur est-elle alarmante ou pas?
Elle est très, 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 très alarmante. C'est pourquoi, comme venait de le dire le journaliste de l'OCAPI, en dehors de l'action que pose l'ONG MAD, mais il serait indispensable que les anciens belligérants puissent aider cette ONG pour pouvoir essayer de déterminer là où se trouveraient ces engins meurtriers.
Oui, vous parlez des anciens belligérants. Est-ce que vous les avez contactés, vous, en tant que gouverneur de l'Équateur?
Bon, ils savent ce qu'ils ont fait, et au moment où nous amorçons un virage décisif, chacun de nous doit essayer on a déjà oublié la guerre, il est question que chacun puisse savoir quelle est comment la population doit évoluer et essayer de PNG en indiquant les endroits où les mines ont été posées, surtout que cette ONG est en train de faire du bon travail déjà.
Parce que jusque-là, tous les endroits où les mines ont été posées ne sont pas connus.
J'ai eu à parler avec l'ONG MAG. Pratiquement, ils sont en train de tâtonner parce qu'il n'y a aucun belligérant qui s'est présenté pour dire qu'il y a tel endroit. On essaie un peu de déterminer les endroits tels que les aéroports, tels que les pistes, pour pouvoir détecter ces engins-là. Mais il serait souhaitable que les belligérants qui ont eu à faire la guerre, qui ont eu à placer ces qu'ils puissent aider ces ONG de pouvoir évoluer rapidement.
Mais vous-même, en tant qu'autorité provinciale de l'Équateur, quelles démarches avez-vous déjà entreprises ou bien quelles actions vous faites pour protéger votre population?
Nous avons cessé de le dire. Nous avons cessé de le dire quand l'ONG MAG est venue. Nous avons parlé à la radio. Nous avons demandé à la population que n'importe quel engin qu'il trouverait suspect dans la brousse, il faudra nous tenir informés. Il ne faudra pas prendre le risque de pouvoir utiliser ces engins que nous ne connaissons pas. Et quand nous parlons à la radio, c'est pratiquement un appel aux belligérants de bonne volonté pour pouvoir nous aider aussi, puisque nous ne pouvons pas les citer nommément parce que nous ne savons pas quel est le belligérant qui aurait posé tel engin à tel endroit.
Mais vous savez quand même c'est quel belligérant, même si vous ne savez pas c'était à quel ou quel autre endroit, vous savez quand même c'est qui exactement?
Bon, nous parlons des belligérants en général. Quand ils ont posé ces armes-là, nous n'étions pas belligérants, nous assistons de loin. Il leur appartient, maintenant vous nous interviewez, ils sont en train de suivre, il leur appartient de pouvoir aider la population, de pouvoir aider leur population, de pouvoir déterminer là où se trouvent ces engins pour permettre à cette ONG de pouvoir les déclencher.
Vous voulez nous dire que vous ne savez pas qui a fait la guerre en Équateur ou tout simplement vous ne voulez pas vous-même les citer?
Non, même vous savez qui ont fait la guerre à l'Équateur. Il y a le MLC, il y a l'ex-gouvernement, il y a le RCD. Ce sont là les belligérants qu'on a toujours cités. Ce sont eux qui ont fait la guerre à l'Équateur.
Oui, colonel Jacques Ebenga, vous venez de suivre là le gouverneur de l'Équateur, M. Yves Mobando Yogo. Quelle réaction vous avez par rapport à cette situation même en Équateur?
Je crois qu'il ne faut pas que nous chargions trop le gouverneur de devoir rechercher l'emplacement des mines. Il appartient au gouvernement. Dès lors que l'armée a été est en phase d'intégration, de demander aux belligérants où sont leurs armements respectifs. Qu'il s'agisse de mines, qu'il s'agisse de canons antiaériens, qu'il s'agisse d'avions, qu'il s'agisse de tout cela, on devait mettre tout ça en commun pour continuer la nouvelle armée. Donc, il appartient au gouvernement de demander aux belligérants qui sont aujourd'hui au gouvernement, en fait, de donner les plans de mines, les plans de pose de mines. Vous savez, les mines ne sont pas posées par hasard. C'est un service de génie qui est approprié, qui connaît bien l'emplacement, qui a une carte d'implantation des mines. Et ces cartes existent. Donc, en tout cas, ces belligérants sont censés les avoir. Qu'il s'agisse de belligérants congolais ou de belligérants étrangers. Et je vais vous dire que, à ma connaissance, ce sont plus de belligérants étrangers qui ont pu poser des mines, pour la simple raison qu'ils avaient
Mais ces belligérants étrangers soutenaient quand même les groupes armés congolais.
Bien sûr, il appartient au gouvernement congolais de réclamer de ces belligérants étrangers le plan d'implantation de ces mines. Parce que ce sont ces étrangers qui avaient la compétence, la capacité technique d'identifier les mines qu'il fallait placer à tel ou tel endroit. Et donc qui en ont la carte également. Je connais bien le cas de Mbandaka. J'y étais à l'époque de la guerre, dans le parc de Yala. J'ai vu comment les Zimbabwéens avaient implanté les mines. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a encore une femme, je crois, ou des écoliers qui ont sauté sur les mines dans le parc, dans le jardin zoologique de Yala. Donc, c'est pour vous dire que ces plans existent, il suffit que le gouvernement soit ferme, qu'il exige divers belligérants, congolais et étrangers, ces plans pour qu'ils les obtiennent, pour qu'ils les mettent à disposition de ceux qui seront chargés de les déménager.
Alors, les auditeurs de l'Équateur, de Mbandaka, ont beaucoup réagi à cette émission. Et c'est pour cela que je vous invite maintenant à suivre cette question posée depuis Mbandaka.
C'est Blandine Lutez au Mbandaka. Ne voyez-vous pas que ces mines constituent un danger pour les travaux champêtres, surtout pour les habitants de Bolomba et du Kelametri? Qu'est-ce que le gouvernement pense pour la population congolaise?
Oui, monsieur le gouverneur, vous faites partie également de ces gouvernements parce que vous êtes vous-même gouverneur. Qu'est-ce que vous pensez pour votre population, si vous pouvez répondre à cette question?
Oui, la question elle est fondée puisque ça nous inquiète, ça nous préoccupe, surtout que nous sommes une province à vocation agricole, comme l'a dit la dame qui a parlé tout à l'heure, la population doit reprendre ces travaux des champs, donc ça nous préoccupe au niveau, et comme venait de le dire tantôt le colonel Edenga, moi je pense que le gouvernement, et moi aussi j'ai fait partie du gouvernement parce que moi j'ai pose le problème pour la population de l'Équateur, mais nous ne savons pas là où les mines ont été placées. Il est question maintenant que le gouvernement, où tout se retrouve pratiquement tous les belligérants, c'est question qu'ils puissent se mettre autour d'une table pour voir quel est le véritable plan de déminage pour permettre à la population de pouvoir vaquer à ses occupations. C'est pour vous dire que ça nous touche au plan.
Colonel Jacques Ebinga, cette réaction donc ou cette question de cet auditeur soulève un problème des activités même de ces habitants qui sont paralysés à cause de ces mines.
Oui, vous savez que le front s'est tiré depuis pratiquement Poueto jusqu'à Mbandaka. Sur cette longueur-là, les belligérants se sont affrontés, c'est vrai. Et c'est pourquoi il faut que tous ces belligérants-là puissent réellement donner la carte d'implantation de leurs mines. C'est une nécessité, une obligation morale, et je crois qu'on doit l'exiger sans atermoiement. Donc la population ne peut évidemment, comme l'a dit le gouverneur, c'est une population agricole qui doit semer, qui doit labourer la terre et autres travaux champêtres, cette population est empêchée d'effectuer cela. Cela vaut pour Mbandaka, ça vaut pour Kabinda également, ou comme on l'a dit, au nord Katanga jusqu'à Poto. Donc il y a plusieurs points ainsi qui ont été minés, et qui nécessite une action rigoureuse de déminage. Et pour cela, il faut réellement que le renseignement soit donné aux agents du déminage pour qu'ils puissent le faire avec efficacité.
Mettons fin à cette première partie de l'émission et nous disons merci donc au gouverneur de Mbandaka, M. Yves Mobando-Yogo, d'avoir répondu à cette invitation. Et rendons-nous maintenant au Katanga. Le Katanga est parmi les provinces les plus minées de la RDC, d'après les rapports publiés en mai dernier par le Centre de coordination de la lutte antimine des Nations Unies. Cette province compte 252 zones avec mines antipersonnelles. Le nombre des victimes s'élève à plus de 250 sur l'ensemble dit Katanga, mais c'est dans le nord de cette province que se trouvent concentrés les gros engins explosifs. Le nord Katanga, vous le savez, a été le théâtre des affrontements entre plusieurs groupes ces dernières années. Notre confrère Expedi Mwamba Mubi, qui est sur place à Kalemi, nous décrit la situation des mines dans cet entretien avec Freddy Lufuluabo. Suivez.
Bonsoir Expedi Mwamba Mubi.
Bonsoir Freddy Lufuluabo.
Quelle est la situation des mines antipersonnelles dans le Nord Katanga?
Le Nord Katanga est une vaste zone aujourd'hui truffée de mines antipersonnelles et autres engins non explosés. Les territoires de Kabalo et de Nouzou dans la partie ouest sont les zones les plus dangereuses. Selon l'ONG danoise Dantjetied, qui se charge du déminage dans le Nord Katanga, il existe 131 zones avec mines sur toute l'étendue du Nord Katanga. Et puis, il faudrait ajouter 287 surfaces avec engins non explosés.
Est-ce que vous disposez de données chiffrées sur les victimes notamment?
Selon l'ONG d'Antchetchède, 193 victimes de mines ont été enregistrées au cours de l'année 2005. À ce sujet, je vous propose d'écouter le petit Sébastien, 10 ans, qui a vu un engin exploser dans ses mains. Il est traduit par François-Xavier Midé.
Ce matin-là, je me suis réveillé. J'ai trouvé mon ami Kovo dans la cour de la parcelle. Il m'avait remis un petit objet. Je l'ai pris. Après, je suis allé dans la cuisine et je l'ai caché dans un bassin de maïs. Le lendemain matin, je suis allé le reprendre. C'était un petit objet comme ça, mais long. Je l'ai ouvert. Après, il y eut une explosion. J'ai vu une fumée noire et du feu. Bon, j'ai remarqué que sur la main, j'avais de la chair crue. J'ai compris que j'étais blessé.
Alors, Expedi Mwamba, qui a posé ces mines exactement?
Selon M. Apané Saïdi, chef du programme national de déminage, d'action humanitaire de déminage à Antchetchède, les mines ont été posées pratiquement par des forces étrangères. On l'écoute.
Il n'y a pas un seul poseur de mines. Hein. Si nous commençons par le territoire de Nyunzu, la plupart des mines ont été posées par les Indéramouins. Ils étaient en train de poser des mines dans tous leurs passages pour éviter que les armées rwandaises et d'autres armées qui étaient contre eux ne puissent pas aller à leur poursuite. Si vous allez dans le territoire de Kabalo, et c'est là où il y a beaucoup de mines qui ont été posées dans le district de Tanganyika, il y a deux sortes de mineurs selon les acteurs qui étaient là-bas. Nous prenons le fleuve Congo comme milieu, parce que Kabalo, c'est la ligne de front. Du côté Kabalo centre, nous avons remarqué que le mine était posé par l'armée du RCD avec leurs alliés rwandais. Du côté gouvernemental, beaucoup de mines étaient posées par les Zimbabwéens.
Merci Expedi Mwamba pour toutes ces informations et bonsoir à Kalemi.
Merci à vous Freddy Lufulabo, merci aux auditeurs Dialogue entre Congolais.
Monsieur Saïdi Apame, vous êtes chef du programme national de l'action humanitaire contre les mines auprès de l'ONG internationale d'Antchetchède. Vous venez donc de suivre cet entretien entre nos deux confrères de Radio Okapi. Qu'est-ce que d'emblée vous pouvez nous dire en ce qui concerne la situation au Katanga?
Oui, madame, merci beaucoup pour cette question. Encore une fois, je suis attentif à l'émission Dialogue depuis le début. Comme venait de le dire votre confrère Expedi, la situation des mines antipersonnelles et autres engins non explosés au Katanga, ça doit être une préoccupation parce que nous venons de remarquer que dans beaucoup de territoires au nord Katanga, et surtout dans le district de Tanganyika, qu'il y a des tronçons routiers qui ne passent plus parce qu'ils sont minés. Il y a des villages tout entiers qui ont été abandonnés parce qu'ils étaient minés. Nous avons remarqué aussi qu'il y a des champs de bananiers, des champs de palmiers à huile, à Nyunzu et à Kabalo, qui ont été abandonnés parce qu'ils étaient minés. Et donc, vous savez, comme vous-même vous l'avez dit, il y avait beaucoup d'acteurs dans la guerre au nord Katanga. Et tous ces acteurs ont miné, chacun la partie où il était, pour se protéger contre son frère ou son agresseur. Voilà un peu la situation et c'est une situation alarmante, comme je viens de vous le dire. Notre ONG a commencé avec le déminage proprement dit depuis octobre de l'année passée, avec l'appui bien sûr de l'Union européenne, il faut que je le souligne. Nous pensons que nous allons lentement, mais pour déminer le Nord Katanga, il faut que le gouvernement puisse vraiment prendre conscience et que les mineurs, c'est-à-dire les belligérants qui ont miné notre pays et en majorité les étrangers, puissent être interpellés et que chacun puisse déclarer officiellement les zones qu'il a minées. Parce que nos enquêtes, oui, on les fait, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des déclarations officielles de ces belligérants. Voilà
oui,
un peu, madame.
Effectivement, M. Saïdi Apame, nous voulions savoir, est-ce que vous, les ex-belligérants vous facilitent quand même la tâche sur le terrain?
Vous savez, les ex quand je parle des étrangers, tous ces étrangers, on ne les a pas rencontrés ici. L'armée du Rwanda n'est plus ici. L'armée du Zimbabwe et de Namibie ne sont plus ici. Les Indérables, ils sont dans des forêts, on ne les a jamais rencontrés. Ce que nous utilisons, ce que nous faisons maintenant, c'est l'enquête technique, parce que nous sommes des techniciens. Et nous n'utilisons que la population civile que nous rencontrons dans des villages.
Oui,
parce que dans certains... Oui.
Monsieur Saïdi Yapa, mais tous ces étrangers-là étaient quand même soutenus par des groupes armés congolais. Est-ce que ces ex-belligérants-là congolais vous facilitent le travail sur le terrain?
Oui, écoutez, il y a deux fois, nous arrivons dans certains villages où nous rencontrons des gens qui étaient, qui se disent démobilisés, qui étaient dans l'armée, soit qui étaient des ex-maïmaï ou des ex-militaires, si nous facilitent quelquefois à nous montrer des endroits où ils habitaient, des tronçons qui étaient minés, mais surtout c'est la population elle-même qui nous dit, écoutez, si vous allez de ce côté-là, il y avait une base de tel groupe armé, et donc à partir de cette information, nous essayons de faire nos techniques pour découvrir des zones qui sont minées.
Et quelle action en fait que vous apportez aux victimes de ces mines?
Vous savez, madame, la question des victimes, ça, c'est une question qui est difficile, parce que les victimes des mines, aujourd'hui, sont abandonnées à leur triste sort. Nous n'avons pas dans notre programme un aspect sur les victimes, mais nous essayons de faire chaque mois des rapports auprès du Bureau de coordination de l'action des Nations Unies sur les mines antipersonnelles. Et le gouvernement congolais, nous faisons toujours des réclamations dans ce sens, pour que ces victimes puissent être prises en charge. Mais sinon, dans la partie où nous œuvrons, ces victimes sont abandonnées à leur triste sort et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour les prendre en charge.
Oui, colonel Jacques Ebenga, vous venez donc de suivre M. Saïdi Apame, qui est chef du programme national de l'action humanitaire contre les mines auprès de l'ONG internationale Downchurch Aid. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tous ces détails qu'il vient de nous donner, par rapport à la situation même au Nord Katanga?
Bon, d'abord, je suis touché par cette fille nous raconte. C'est pathétique, ça, la situation de cette fille qui a cru avoir trouvé un jouet.
Oui, c'est un petit garçon de 10 ans.
Un petit garçon, pardon, oui, et qui a peut-être perdu son membre supérieur. Donc cela démontre comment les enfants sont les plus grandes victimes par inattention. Et évidemment les agriculteurs également. Mais le problème, vous savez, il est assez général. Il faut une politique. Il faut au niveau du gouvernement une politique, à la fois une politique de déminage qui implique d'interpeller les ex-belligérants congolais et étrangers, et une politique de prise en charge de ces blessés. Je me rappelle encore que j'ai eu à connaître un cas de ce genre personnellement à l'Équateur, quand à Ikela, où également beaucoup de mines ont été implantées, des femmes et des enfants ont sauté sous des mines. Et ils sont venus ainsi pour se faire soigner, mais personne ne les prend en charge, absolument personne, parce que on dit voilà qu'à l'armée de les prendre en charge, l'armée dit écoutez, ce sont des civils, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et puis il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources médicales pour pouvoir s'en occuper. Et ces gens-là ont eu des membres pourris. Hein, il a été nécessaire de voir comment sauver certains en les évacuant avec Kinshasa. Mais les membres pourris, et ils sont morts notamment de maladies qui sont dues à des blessures de guerre. Donc c'est cela la situation malheureuse. Il faut donc toute une politique en la matière, à mon avis.
Alors, colonel Jacques Ebenga, selon la campagne internationale pour interdire les mines Landmine Monitor 2003, outre les forces gouvernementales congolaises et les forces de l'opposition, des troupes du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et du Zimbabwe sont accusées d'avoir utilisé des mines en RD Congo. Pensez-vous que le gouvernement congolais puisse avoir une action contre ces pays étrangers?
Le gouvernement congolais doit interpeller ces pays. Ce sont les partis des Congolais qui les ont fait venir au Congo pour intervenir en leur faveur. Et vous oubliez les Tchadiens aussi, parce que du côté du Nord, là-bas, il y a aussi les Tchadiens qui ont commis certains actes de pose de mines. Donc, il y a tout cela. Le gouvernement congolais doit être un gouvernement responsable vis-à-vis de ses citoyens. C'est la guerre a eu lieu, c'est vrai. elle est passée. Maintenant, on fait le bilan de la guerre. Qui a fait quoi? Non pas dans le sens de poursuivre les gens, ni de chercher des dédommagements en responsabilité, mais en tout cas, de chercher à améliorer la situation de ces agriculteurs, parce que le pays risque de patauger dans l'insuffisance alimentaire et autres activités commerciales prédicées par ces mines, de manière que la reconstruction du pays soit retardée par le fait que les gens ne peuvent pas s'activer à leurs activités ordinaires.
Alors, pensez-vous, comme Denis Mukwege, il est du Maniema, trouve que tant que les ex-belligérants n'ont pas d'assurance à l'élection, il n'y aura pas des déminages à cause des agendas cachés. Pensez-vous que ça soit cela?
Je ne suis pas certain, parce que vous savez, une mine, c'est un piège. Vous avez posé une mine, si vous ne savez pas retrouver votre mine, vous pouvez vous-même sauter sur cette mine-là, si vous n'avez pas une vision claire de son positionnement. Donc il faudrait que ces belligérants enlèvent ces mines. S'ils veulent s'affronter autrement, c'est une autre affaire, mais en tout cas, par les mines, ça va être préjudiciable à tout le monde.
Merci Saïdi Apamé. Je rappelle que vous êtes chef du programme national de l'action humanitaire contre les mines auprès de l'ONG internationale Dunchurch Aid. Merci donc d'avoir répondu à cette invitation. Nous passons directement dans la troisième partie de cette émission et nous allons nous rendre en Ituri. Et Jean Bosco Lalo, qui est président de la société civile de l'Ituri, est déjà en ligne. Alors, en 2002, par exemple, à Nizi, localité située à environ 15 km au nord de Bounia, une femme a sauté sur une mine et perdu sa jambe alors qu'elle revenait de son champ. Je vous invite donc d'abord à suivre le témoignage de la victime. C'était en 2002, à l'époque où l'UPC et les Ougandais se battaient entre eux. Nous revenions des champs et tous les autres sont passés, sauf moi qui étais un peu en retrait et qui ai sauté sur une mine. Je me suis retrouvée au sol et je n'avais pas compris ce qui venait de m'arriver. Tous ceux avec qui nous faisions route ensemble se sont enfuis dans tous les sens. J'ai juste vu s'échapper une fumée, mais je ne savais pas que j'avais perdu l'usage de ma jambe. J'ai voulu me lever et m'enfuir comme tous les autres et c'est alors que je me suis rendu compte qu'il y avait une marre de sang autour de moi. Je ne pouvais plus bouger et donc j'étais bloquée à terre. Tout mon pied est parti et aucune trace ou morceau de mon pied n'a pu être retrouvé. Le reste de ma jambe saignait abondamment. Je me suis servi de mes pagnes pour tenter d'arrêter ce saignement. J'ai enroulé ma jambe avec 3 pagnes, mais cela n'a pas été efficace tellement je saignais. C'est seulement vers 16h30 qu'on est venu me ramasser à Nizi et que le lendemain j'ai été conduite à l'hôpital général. J'y suis arrivée inconsciente parce que je m'étais vidée de mon sang, étant donné que je suis restée sur les lieux du drame toute seule de 9h à 16h30. Jean Bosco Lalo, vous qui êtes président de la société civile de l'Ituri, comment avez-vous au fait vécu cette situation des mines posées par-ci par-là et abandonnées par les belligérants?
Oui, madame, merci beaucoup pour votre invitation. Nous pensons que ce n'est pas le seul cas. Il y en a eu aussi d'autres, peut-être qui n'ont pas été signalés. Alors, nous allons dire que ici à Ituri, la situation est plus compliquée que dans d'autres provinces. D'autant plus que ici, on essaie plus d'identifier qui sont les déjà qui ont posé des mines, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont défilé par Ituri. Nous pouvons citer RCD KML, IPC, FNI, FRPI, PUSIC. Et aujourd'hui, c'est le MRC.
Oui,
la situation de Bounia est plus compliquée encore.
Oui, merci beaucoup, M. Jean Bosco Lalo, donc, pour ces petits briefings que vous venez de nous donner. Alors, le district de l'Ituri dans la province orientale est parmi, effectivement, ceux du pays qui ont payé le lourd tribut des affres de la guerre. Des personnes civiles se retrouvent présentement avec des membres amputés suite aux mines antipersonnelles posées par divers groupes armés. En vue d'épargner la population de ces accidents, les CCAM, Centre de coordination pour l'action contre les mines, s'attelle depuis 2003 au déminage, suivant le point que nous présente Billy Yvan Lutumba sur ses opérations dans cet entretien avec René Capita.
Bonsoir Billy.
Bonsoir René.
Quelle est la structure qui s'occupe du déminage dans le district de l'Ituri? René, ici, dans le district de Litouri, les opérations de déminage sont coordonnées par le CESCAM, qui est le centre des coordinations pour l'action contre les mines, un programme UNMAS, qui veut dire United Nations Mine Action Service, mis en œuvre par l'UNOPS, qui est chargé des projets. Le CESCAM est à l'œuvre en Litouri depuis 2003. Il travaille avec l'assistance d'un contracteur sud-africain qui s'appelle MECAM. Outre les déminages, la mission CESCAM consiste à assister la population lorsque celle-ci manipule les engins non explosés, c'est-à-dire tout ce qui peut être ramassé comme grenades et autres matériels de guerre. Cette assistance est également complétée par des campagnes de sensibilisation durant lesquelles le CESCAM, à travers certaines ONG, explique à la population les caractéristiques des divers engins explosifs et quels comportements adopter lorsqu'on suspecte un objet quelconque ou un terrain. Tout ceci en vue de prévenir tout accident causé par les engins explosifs.
Billy, mais comment se déroulent les opérations de déminage dans cette partie du pays?
D'abord, le contracteur sud-africain travaille avec 18 agences recrutées localement. Avant de passer au déminage, l'équipe des démineurs utilise des chiens qui ont l'aptitude de déterminer les coins qui sont minés. Ces chiens parviennent à déterminer ces coins par la vapeur explosive que dégagent les mines. Juste après les démineurs, qui sont déjà entraînés pour travailler avec un équipement manuel, spécialement un détecteur de métal et aussi des moyens mécaniques, vont passer pour confirmer si réellement ces terrains sont minés.
Depuis que ce centre fonctionne à Litouri, combien de mines ont été jusque-là détruites?
René, au moment du processus de désarmement, le CESCAM avait détruit plus de 800 mines antipersonnelles et antichars. Ces mines ont été détruites beaucoup plus dans les contrées de Haru et Pandroma.
Est-ce qu'on peut savoir les poseurs de ces mines?
Il est difficile de déterminer avec exactitude les poseurs des mines ici en Litouri, nous a affirmé l'officier des opérations de déminage. Raison avancée, il y a différents groupes armés qui ont opéré dans le district et d'autres sont encore sur le terrain. Ils utilisent tous des mines.
Est-ce que ce jour, on peut savoir le nombre des victimes de ces mines en Litouri?
Longis Langlois, officier des opérations de déminage à Litouri, que nous avons interrogé René, affirme qu'il ne dispose pas des chiffres pour les districts de Litouri. Néanmoins, pour le territoire congolais, il parle de près de 1800 personnes qui se sont blessées et perdues des membres ou morts par les mines antipersonnelles ou des engins non explosés ramassés.
Merci beaucoup, Billy.
Merci beaucoup, René.
Monsieur Jean Bosco Lalo, je rappelle que vous êtes président de la société civile de Litouri. Je reviens à vous. Donc, par exemple, il y a un problème en Litouri. On ne sait pas quels sont les chiffres, au fait, des victimes. Vous-même, en tant que membre de la société civile, est-ce que vous avez pu récolter quelques éléments ou bien quelques données par rapport à cette situation?
Oui, en tout cas, à ce jour, nous n'avons pas de données fiables à vous donner ou des chiffres exacts. Il a parlé de Haru et de Magi. Mais nous allons aussi ajouter les territoires d'Irumu, surtout vers Nyakundi et Marabo,
oui.
Où on a pu arracher plusieurs mines. Et même dans la ville de Bunia, récemment ici au mois d'avril, on en a encore trouvé tout près de la forêt de Nyakasanta.
Oui, on a aussi relevé la difficulté de déterminer avec exactitude le poseur de ces mines. Mais tantôt là, vous nous disiez qu'on pouvait inclure là tous les ex-belligérants qui se sont combattus dans ces territoires, c'est ça?
Oui, certainement, parce que lorsqu'il s'est battu pour contrôler la ville de Bunia, par exemple, chaque groupe tenait fort et puis il fallait empêcher l'autre d'entrer, et ce qui les amenait éventuellement à poser des mines par-ci, par-là.
Mais en tant que membre de la société civile, quelles sont les démarches que vous avez, par exemple, menées auprès du gouvernement pour que vous puissiez trouver des solutions par rapport à ces mines qui sont posées à gauche, à droite?
En tout cas, pour les démarches à mener auprès du gouvernement, nous en avons déjà beaucoup mené pour plusieurs dossiers, mais qui demeurent sans suite à ce jour.
Et vous pensez que cela est dû à quoi?
En tout cas, notre gouvernement, c'est comme si Litouri était abandonné à soi-même.
De quelle façon?
Oui, de Kinshasa, oui.
Non, de quelle façon, en fait, Litouri a été abandonné à soi-même? Parce que quand même, on voit qu'il y a des activités, des déminages de ces côtés-là qui ne se font pas, par exemple, dans d'autres coins de la République.
Oui, les démineurs, ce sont des organisations gouvernementales, mais le gouvernement a un rôle important à jouer aux côtés des ONG.
Merci beaucoup, donc, Monsieur Saïdi Apamé. Non, Monsieur Jean Bosco Lalo, je m'excuse pour cette intervention. Alors, Colonel Jacques Kébenga, votre réaction par rapport à l'Ituri, où on voit quand même qu'il y a des avancées, il y a des ONG qui s'occupent également de ces opérations de déminage.
Oui, j'encourage ces ONG, mais je mesure leurs difficultés. Quand on sait que les mines posées au Kasaï oriental, au Kasaï occidental, à l'Équateur, l'ont été par des forces assez régulières avec un front militaire assez identifié, il est tout aussi difficile pour les contrées comme l'Ituri ou le Nord Katanga de savoir qui a posé les mines à quelle époque. Parce que là, il n'avait pas de front comme tel. C'est une guerre de groupes qui se battaient les uns contre les autres et le front n'était pas établi. Donc il est difficile effectivement là-bas d'identifier les auteurs de ces mines. Mais ça veut dire que la politique de déminage là-bas doit être différente de celle qui est appliquée ailleurs. Il ne doit pas s'agir, je crois, d'une politique de détection des mines individuellement, parce qu'il y en a des masses. La concentration là-bas est assez élevée, elle approche celle qu'on rencontre en Angola, par exemple, ou au Cambodge, qui sont les pays les plus minés après la guerre. Donc, il faut peut-être des mesures, des moyens, peut-être plus coûteux, mais des moyens de détection différents. Des moyens électromagnétiques existent, des moyens autres qui puissent donner une plus grande vision de manière assez massive des mines qui sont posées et procéder à leur détruction de manière disons sommaire. Pas chercher à trouver chaque mine et à la détruire, ça va être coûteux et très très fastidieux. Donc il faut recourir à des techniques de détection beaucoup plus peut-être expéditives, mais en tout cas plus élaborées.
Monsieur Jean Bosco Lalo, je rappelle que vous êtes président de la société civile de l'Ituri. Merci d'avoir intervenu dans cette émission et maintenant place aux opinions des auditeurs.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Bonsoir Nadine Foula et quelles sont les opinions que nous avons reçues aujourd'hui?
Bonsoir Breuil, bonsoir à tous les auditeurs. Ouvrons cette page avec Fred qui nous écrit à partir d'Ouvira. Moi, je pense, dit-il, que les ex-belligérants sont aussi des Congolais et ils doivent avoir pitié de nous qui vivons dans leur piège. Bernard Debouni a dit ceci. Nous informons le gouvernement de la RDC qui a des terrains minés dont la population en a besoin pour la culture et autres. Des Kananga Jules Kabasele dit ceci, les déminages en RDC c'est bien, mais désarmer ou déminer ces usines de fabrication c'est mieux. Pour Ndaye Moussafiri à Nyamugo, à Bukavu, il n'y aura personne pour déminer. La guerre n'est pas finie, les ex-belligérants sont au pouvoir par les accords de Sun City. Les déminages n'est pas leur priorité, mais un garde-fou. Ils patientent, ils vont reprendre les hostilités s'ils échouaient aux élections. Emmanuel qui est à Bounia constate que ces belligérants n'ont pas la volonté de déminer car leur souci était de tuer le peuple. Nous avons aussi Matongo le Tetu qui est à Kamina dans la province de Katanga. Il estime que les belligérants acteurs de la transition sont poursuivables faute d'avoir refusé de dévoiler leur plan de minage. Sayo Issa de Mbandaka dit ceci. Ce sont des étrangers tels des Zimbabwéens, des Namibiens, des Rwandais et des Ougandais qui ont posé des mines à Bolomba. Enfin, Villa Kikanda Mwanda estime que, pour le problème de ces engins abandonnés en brousse, c'est la population qui devrait informer ou aider les autorités, tant civiles que militaires.
Merci beaucoup Nadine Foula pour ces opinions des auditeurs et brièvement, colonel Jacques Ebenga, réagissez par rapport à ces opinions.
Les auditeurs ont dit des choses vraies, notamment concernant les étrangers qui ont été surtout à la pointe de cette politique de pose de mines. Et ça c'est vrai.
Les étrangers qui jusque-là n'ont jamais admis avoir posé des mines.
On ne leur a pas posé la question. Il faut que le gouvernement leur pose fermement la question et exige des plans de cette pose de mines. Et je salue en passant M. Famba qui est solidaire avec mes opinions sur cette question.
Merci beaucoup donc à tous les invités de cette émission. Merci à tous les auditeurs qui l'ont suivi également. Cette émission sera rediffusée demain à 4h45 heure de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur le site internet sur www.radiocapi.net. Et nos auditeurs sur ondes courtes peuvent également la suivre sur 11.69 kHz. Merci donc au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais. À la prochaine.